Bonjour à tous, vous êtes pas bien nombreux, mais il y a peut-être encore des gens qui vont arriver. Alors je m'excuse un petit peu d'ailleurs pour la forme de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, qui est un peu particulière, parce que plutôt que de faire ça sous LibreOffice ou OpenOffice, en fait, on va sortir un site web pour les 10 ans de Framasoft, qui est encore en construction, et c'est ce qui va me servir de support un petit peu pour expliquer ce qu'on fait. Donc je me présente, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis permanent de Framasoft, c'est-à-dire que je suis payé par l'association pour maintenir l'ensemble des projets qu'on fait et qui essayent de promouvoir le libre. Et donc je vais essayer un petit peu de vous présenter ce qu'est Framasoft, ce qu'on fait, et surtout comment est-ce qu'on essaye nous de promouvoir le libre auprès du grand public depuis maintenant 10 ans. Puisque c'était le 14 novembre 2001 qu'était lancé le site Framasoft. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc ça va être une conf un petit peu autopromotionnelle, mais l'idée c'est pas du tout de dire Framasoft c'est bien, c'est de dire voilà quels sont les types de projets que nous on a pu faire, en espérant que ça vous donne des idées pour non seulement participer aux projets existants, mais surtout pour en créer de nouveaux et venir nous dire et venir nous voir en nous disant bah tiens voilà moi j'aurais bien un projet de promotion du libre dans telle zone, je sais pas, voilà, je voudrais promouvoir le libre en Afrique, je voudrais promouvoir la musique libre, etc. Voilà comment j'imagine les choses, est-ce que ça peut rentrer dans votre cadre, oui, non, et si c'est oui, à ce moment-là, nous on est prêt à mettre à votre disposition des moyens, des ressources, des gens, des bénévoles, de la com, etc. Donc alors, c'est pas grave si on n'arrive pas très très bien à lire, vu que je vais surtout parler. Donc Framasoft, né en 2001, hop, oh, c'est beau, ça bouge, d'un site qui au départ, et même d'un autre site qui s'appelait Framanet. Alors Frama, on nous pose souvent la question, ça a strictement rien à voir avec Fram, l'agence de voyage, Framatome, le nucléaire, etc. C'était français et mathématiques, au départ ça s'appelait Framanet, français et mathématiques sur intranet. Donc un site créé par un prof de maths, une prof de français, qui mettait en ligne des ressources gratuites, mais pas forcément libres, justement, sur internet. Et sur ce site Framanet, il y avait une partie logicielle qui s'appelait Framasoft, et je pense que hop, si je clique magnifique, on devrait pouvoir arriver sur la page. C'est fait la face d'ouvert. Ça devrait revenir, voilà. Donc ça c'est l'archive, la toute première page, on est j'arrive pas à lire la date, mais on doit être aux alentours de novembre 2001. Voilà la toute première version de Framasoft, le site qui était à ce moment-là séparé du coup de ce site qui s'appelait Framanet et qui présentait des logiciels dont on va dire 80% étaient gratuits, c'était des freeware, c'était absolument pas des logiciels libres. Donc je sais pas, est-ce que les gens ici vous faites la différence entre, est-ce que quelqu'un connaît pas la différence entre un logiciel libre et un logiciel gratuit? Non. Bon, public d'averti, ça va, on est à l'Ubuntu Party. C'était vraiment dans l'idée de présenter à des enseignants des logiciels qui pouvaient servir au quotidien, qui pouvaient leur servir au quotidien. Hop. On était donc en 2001, Framasoft secret. Et donc, se crée essentiellement cet annuaire de logiciels libres. On est essentiellement connu pour ça depuis 10 ans. C'est pour faire un petit peu les pages jaunes du logiciel libre. C'est-à-dire, vous cherchez un logiciel de retouche d'image, un logiciel qui permet, je sais pas, d'enlever les yeux rouges, un logiciel de comptabilité, un logiciel de, je sais pas, de, un ERP libre, un logiciel de sondage. Voilà. Donc, nous, notre travail en tant que communauté, c'était de repérer ces logiciels, vu qu'il existe énormément de logiciels libres, il en existe plusieurs centaines de milliers, c'était de repérer ceux qui pouvaient être utiles au grand public, et puis de faire une petite notice descriptive de ce logiciel, afin de signaler l'existence du logiciel, comment est-ce qu'il fonctionne, ses points forts, ses points faibles. Donc on a commencé évidemment avec un logiciel, aujourd'hui on en est donc à peu près 1600, et donc ça permet déjà de faire un tri, et puis on faisait déjà du web 2.0 comme ils l'ont appelé beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'on permettait tout simplement aux gens d'échanger autour de ces logiciels et de créer une communauté autour de ces logiciels et donc de dire moi j'aime ce logiciel parce que, ou non j'aime pas ce logiciel parce que. Et c'était très pratique parce que pour le grand public, aller sur le site qui s'appelle SourceForge, qui est un site sur lequel on va héberger par exemple des logiciels libres et du code de logiciels libres, ça nous disait pas forcément si le logiciel était bien ou pas. Il fallait le télécharger, l'installer, le tester, tout ça prend du temps. Et pour le grand public, c'était assez compliqué. Donc nous, notre travail, c'était d'intervenir en amont, de faire une sélection et de dire, ben voilà, ce logiciel fonctionne bien, vous pouvez l'utiliser et le recopier, le diffuser autour de vous, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Je ferai une pause avec plaisir. Donc on a continué comme ça pendant 2-3 ans, puis en 2004... voyant justement petit à petit le site grossir et surtout ce qui nous paraissait intéressant, c'était la mise en relation que permettait Internet entre des gens qui étaient d'horizons totalement différents et qui avaient comme particularité le fait de vouloir discuter du logiciel libre et qui s'intéressaient au logiciel libre. On a créé ce qui était très à la mode à l'époque, un forum de discussion, chose qui se fait aujourd'hui de moins en moins à l'époque des Facebook, Twitter et compagnie. Mais on a créé donc un forum de logiciels libres pour parler autour du logiciel libre, de ce qui s'y faisait, de ce qu'on pouvait y faire, etc. Et c'est un forum qui a vraiment bien marché aujourd'hui. Je vous le cache pas, il en perd de vitesse, hein, parce que l'outil forum est de moins en moins utilisé par les internautes aujourd'hui, à part les forums Doctissimo et je sais plus quoi, mais hardware.fr peut-être. Mais autrement, la plupart des forums petit à petit se tassent. Mais il a connu son heure de gloire, notamment en 2006, avec puisqu'on était le forum entre guillemets officiel du projet EUCD.info, du site EUCD.info, qui informait justement les citoyens sur le projet de loi, notamment en France, qui allait arriver en France plus tard, le projet de loi d'AFSI. Donc je ne sais pas si ça rappelle quelque chose. C'était droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information. Donc un petit peu toutes les perversités que les gouvernements voulaient mettre en place autour d'Internet et autour du droit d'auteur, notamment pour mieux contrôler et la culture et l'informatique. Et du coup, on hébergeait donc le forum officiel. Et on a eu aussi du coup des choses qui étaient assez rares à l'époque, comme par exemple, on a hébergé le débat de deux députés, donc Monsieur Carayon, Monsieur Cazenave, qui sont venus débattre en live sur les forums. Je rappelle encore une fois qu'on était du coup en 2005-2006, c'était pas non plus très très courant pour des députés de venir s'exprimer sur Internet. Déjà aujourd'hui c'est pas simple, mais en 2006 c'était assez précurseur et ils étaient très très contents de l'expérience. Et d'ailleurs ce sont restés pendant longtemps des gens qui se sont beaucoup intéressés à problématiques informatiques et problématiques des libertés numériques. 2005, le projet Framaki. Alors Framaki... toujours une sur moi, hop là, petit mais costaud, projet de clé USB sur laquelle on met des logiciels libres. Donc l'idée c'était de dire, c'est bien beau d'avoir des logiciels libres, on les a pas, enfin s'il faut aller les télécharger sur les ordinateurs de chaque personne chez qui on va, ça peut être un peu compliqué. Et du coup, on a mis des logiciels libres sur la clé USB. Alors au départ, ces logiciels libres étaient uniquement des logiciels libres sur Windows, c'est-à-dire on mettait Firefox, OpenOffice, etc. sur la clé. La personne, elle est sur Windows, elle branche la clé, elle peut lancer OpenOffice ou Firefox directement depuis la clé, sans avoir à redémarrer sa machine, et surtout sans avoir à installer le logiciel sur la machine. Là aussi, ça a très bien marché, vu qu'on en a diffusé à peu près entre 3 et 4 millions de versions différentes. Alors quand je dis entre 3 et 4 millions, c'est calculé très à la louche parce que il y a des projets comme la région Île-de-France par exemple qui ont repris cette idée-là, qui ont fait une version qui leur est propre, puis ils ont forqué le projet, ils ont fait une version donc qui leur est propre et qui diffuse aujourd'hui à peu près 200 000 étudiants quasiment chaque année. Donc tous les ans, il y a 200 000 lycéens et apprentis de la région Île-de-France qui reçoivent une clé USB sur laquelle il y a des logiciels libres et qui vont du coup que les lycéens vont pouvoir utiliser chez eux et du coup ça leur fait découvrir le libre. Cette clé, elle a évolué en 2009 vu que maintenant elle s'appelle Framaki Ubuntu FR Remix. Alors Framaki, on sait pourquoi. Ubuntu FR, c'est parce que maintenant elle intègre la distribution Ubuntu. Et remix, c'est parce que Ubuntu a parfois des politiques de droit qui dit qu'il faut pas utiliser Ubuntu sans mettre remix derrière. Chacun ses règles. Et du coup, on diffuse cette clé qui permet à ce moment-là, donc, non seulement d'utiliser des logiciels libres sur Windows, mais aussi de démarrer son ordinateur sur Ubuntu. Donc là aussi, toujours dans une perspective de promotion du logiciel libre, c'est assez utile, puisque ça veut dire que quelqu'un qui a une clé comme ça, donc il peut évidemment l'acheter au stand Ubuntu FR là-bas, c'est trop bien, ça fait un petit peu de sous pour Ubuntu et ça fait un petit peu de sous pour Framasoft, mais vous pouvez parfaitement aller acheter votre clé USB chez votre vendeur du coin, et puis télécharger gratuitement le contenu, l'installer sur votre clé. L'intérêt, c'est quoi? C'est que le jour où vous êtes chez votre cousin Kevin, parce que votre cousin s'appelle Kevin, vous avez pas de bol, et vous installez, du coup, vous branchez la clé USB, vous allez pouvoir lui montrer Ubuntu avec un peu comme on utilisait les live USB il y a quelques années, les live CD, pardon, il y a quelques années. Donc là, en live USB, l'intérêt, c'est quoi? C'est que s'il travaille dessus, eh ben Kevin, il retrouvera le fond d'écran qu'il a changé, il retrouvera les documents qu'il a enregistrés, etc. Et du coup, ça permet un petit peu de promouvoir du coup la distribution Ubuntu, on va dire par le bouche à oreille. Donc c'est une communauté donc qui est Framaki qui existe maintenant depuis plus de 5 ans, qui marche plutôt bien, et donc dont la nouvelle version, la Framaki Ubuntu Remix 11.10 est disponible donc, au stand Ubuntu juste à côté. 2006, collection Framabook. Alors là, on est parti, le sous-titre, le slogan de la collection, c'est le pari du livre libre. Il faut bien voir que donc là, ça faisait déjà 4 ou 5 ans qu'on faisait la promotion du logiciel libre auprès du grand public. Donc la particularité, vous l'avez compris, on vient du monde Windows, plutôt du monde enseignant, donc pas des informaticiens à la base. Moi, je travaillais plutôt pour des universités, j'ai pas un diplôme d'informatique. Et on nous disait, bon, c'est bien gentil votre truc, mais ça marche parce que c'est du logiciel et ça marcherait pas pour des objets physiques. On peut pas faire des t-shirts libres ou du livre libre, ça marchera jamais. Le genre de phrase qu'on aime bien entendre, et on s'est dit, bon, ok, challenge relevé. Et on s'est dit, on va tenter de faire une collection de livres libres. À ce moment-là, donc en 2006, il se trouvait que le tout premier, un des membres de Framasoft était en train d'écrire un livre sur Thunderbird pour une maison d'édition qui depuis disparu, et il s'est retrouvé le bec dans l'eau quand la maison d'édition lui a dit « Bah non, en ce moment, financièrement, nous, on va mettre la clé sous la porte, ton livre, tu peux peut-être le vendre ailleurs, mais nous, on pourra pas le publier. » Il avait écrit 80% du bouquin, il s'est dit « C'est quand même bien dommage. » Et on a décidé du coup de pousser au bout les 20 derniers pourcents qui restaient et de se dire on va essayer de le sortir sous une licence libre. Donc on a choisi la Creative Commons by SA, donc qui dit que qui est très proche de on va dire la licence GPL pour les logiciels, c'est-à-dire on a le droit de copier le livre, on a le droit de le photocopier entièrement, on a le droit de le remodifier, on a le droit de publier les versions modifiées, et on a le droit de le revendre librement. Modulo la loi sur le prix unique du livre, et tout ça à condition uniquement de citer l'auteur et de conserver le livre sous la même licence, et les ouvrages modifiés sous la même licence de départ. Donc c'était un petit peu cette idée folle de se dire qu'on va faire du livre, enfin de l'objet physique libre, là aussi, à notre surprise un peu générale, ça plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire que le premier livre sur Thunderbird, c'était Thunderbird 1.5, et puis il y a eu une mise à jour du livre un an ou deux plus tard, puis Thunderbird 2 est sorti, et on a trouvé un autre bénévole qui nous l'a mis à jour le livre, etc. Et ça s'est plutôt bien vendu, et aujourd'hui on arrive à avoir une collection d'une dizaine de livres. Hop, allez jeter un petit coup d'œil. Donc vous avez le tout premier dans la collection qui était utilisé Thunderbird. Le deuxième qui était simple comme Ubuntu, qui a été notre best-seller pendant très longtemps, qui était donc un manuel d'utilisation au départ, un simple tutoriel sur Ubuntu qu'un bénévole d'Ubuntu a développé, jusqu'à devenir un livre à part entière, qui a longtemps été sans doute un des ouvrages les mieux vendus sur Ubuntu en France. un livre sur Speak, un livre sur OpenOffice, hein, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la tech sans jamais avoir osé le demander, des livres sur le C20, et plus récemment, donc on a fait une biographie de Richard Stallman traduite, et je vais y arriver, des bandes dessinées, Geekctionnaire, que je vous conseille sur la table de chevet pour rire un peu le soir avant de s'endormir, après avoir geeké pendant des heures. Oui, car vous geekez pendant des heures. Et donc voilà, le principe, c'est que tous ces livres sont disponibles sous licence libre. Et donc nous, soit on en trouve, on va dire, les auteurs. Donc toute la difficulté, c'est de trouver des auteurs qui acceptent de publier sous licence libre, mais il y en a. Ou de trouver des ouvrages qui sont en anglais, le plus souvent, sous licence libre. Et donc nous, on va mettre une équipe de traduction derrière, qui va traduire le livre. Et on va les diffuser comme ça après en ligne gratuitement, où vous pouvez les acheter sur notre boutique en ligne et les rediffuser derrière. Je vais surveiller l'heure. Ça va. Framablog. Donc là, 2006, plutôt fin d'année 2006, le Framablog. Le principe, donc c'est un petit peu le courrier international du logiciel libre. Courrier international, donc vous connaissez peut-être quand même cette publication papier qui existe depuis longtemps maintenant, qui consiste à repérer des articles dans tous les pays du monde, des articles qui vont être traduits en français et qui vont être publiés dans le courrier international, qui permet du coup de repérer des sujets émergents en politique, en économie, en écologie, dans ce que vous souhaitez en fait, et donc de le proposer au public français pour qu'on ait un autre point de vue finalement et une meilleure connaissance de ce qui peut se voir et des autres points de vue à l'étranger. On a décidé un petit peu de faire la même chose avec le Framablog. Au départ, c'était parti pour être le blog de Framasoft, mais on trouvait que ça faisait très égocentrique. Et du coup, aujourd'hui, une des missions principales du Framablog, c'est de traduire des articles étrangers, toujours avec cette logique qu'on voit, en fait, on va ouvrir aussi, avec cette petite phrase qui est marquée en haut, qui est tirée d'un documentaire qui s'appelle Code Linux, qui a été diffusé sur Arte il y a un petit moment. Et donc le Framablog, dans ce documentaire, il y avait quelqu'un qui disait, une phrase assez frappante, qui disait « Mais ce serait quand même bien dommage, une des plus grandes opportunités manquées de notre époque, si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code. » Et pour nous, ça reste vrai, et toujours très pertinent aujourd'hui, de se dire que le logiciel libre, c'est bien, mais que c'est encore mieux si ça arrive à changer des choses à la marge et si ça arrive à impulser des initiatives en dehors du logiciel libre. Et donc le Framablog, si vous n'êtes pas du tout intéressé par l'informatique en général, ou même si vous l'êtes évidemment, c'est toujours intéressant de se poser la question, de savoir finalement qu'est-ce qui peut se dire en dehors du logiciel libre et en quoi ce mouvement du logiciel libre impacte d'autres mouvements sociétaux à l'extérieur. Donc on va y parler de musique, on va y parler de open data, donc là par exemple Raleigh, Montréal, quelle sera la première ville open source du monde, le logiciel libre, voilà, qu'est-ce que ça change dans l'éducation de demain, voilà, donc il y a plein d'articles sur un peu tous les sujets, mais on va surtout y parler donc de culture libre. Et ça nous paraît aujourd'hui très intéressant de s'intéresser finalement, vu qu'on vient de nous, pas d'un milieu informaticien, finalement de s'intéresser à ce qu'on trouvait bien dans les valeurs du logiciel libre, comment est-ce qu'elles peuvent être dupliquées et comment est-ce qu'elles peuvent inspirer le domaine écologique, par exemple. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce projet qui s'appelle Open. Alors je crois que c'est Open Source Open Village Construction 7. Excusez-moi pour mon anglais. En gros, à la base, c'est mené par un Polonais qui a décidé de construire des machines qui permettent de construire un village. Donc ça va du tractopelle à la machine à construire des briques, et dont il diffuse librement tous les schémas sur un wiki, sur Internet. Et donc du coup, les gens peuvent télécharger ces schémas-là, refaire un tracteur libre, une machine à construire des briques libre, une machine à forer libre. Et du coup, on peut comme ça construire un village complet à partir de ces machines-là. Et donc c'est évidemment directement inspiré du logiciel libre. Framalang, c'est un projet sur lequel je vais passer assez rapidement, mais qui est pour nous très important, vu que c'est un projet plutôt interne. C'est notre groupe de traduction. Donc si vous n'êtes pas informaticien ou informaticienne, si le code vous ennuie profondément, venez nous aider à traduire des choses de l'anglais essentiellement vers le français pour aider ce public français qui est souvent très réticent à l'anglais à s'intéresser à d'autres, finalement, au sujet dont je parlais juste avant. Donc les articles du Framablog sont souvent issus de traductions de notre communauté Framalang, qui va traduire souvent des articles assez courts ou carrément des bouquins. Donc la biographie de Richard Stallman, à la base, elle était en anglais. On a eu du coup une trentaine, je crois, de traducteurs qui sont venus bénévolement nous aider à traduire en français. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que comme la traduction avait été mise à jour par Richard Stallman lui-même, Richard Stallman, enfin, et la FSF, donc la Free Software Foundation, ont sorti une mise à jour de ce livre-là en anglais, basée sur la traduction française qu'on avait basée nous sur la traduction, enfin sur un truc en anglais. C'est le libre. C'est des fois, ça prend des chemins un petit peu détournés, mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à notre but. Et c'est assez, enfin, on était très contents de voir que Monsieur Stallman lui-même ressortait sa biographie, qui est presque une autobiographie, mais pas complètement, biographie autorisée, on va dire ça, contrôlée. Frama DVD. Donc là, on fait un petit saut en 2009. Toujours donc dans l'idée de promouvoir le livre auprès du grand public. On s'est dit que ce qui était compliqué, ce qui reste compliqué pour ma petite sœur, que j'aime beaucoup par ailleurs, bonjour, qui s'intéresse vraiment très très à la marge au logiciel libre, mais qui aimerait bien, à la limite, peut-être connaître plus de logiciels libres. C'est bien beau d'avoir un annuaire en ligne, qui est Framasoft, mais ça reste compliqué d'avoir les logiciels sous la main, faut aller les télécharger. Je sais pas si vous avez essayé de télécharger, je crois, c'est par exemple Scribus, logiciel de PAO qui est quand même relativement bien fichu et qui est un logiciel libre plutôt performant. Si vous avez déjà essayé de télécharger Scribus, le site est en anglais. Et vous avez une bonne grosse page, je sais pas si je vais tenter, du coup je vais peut-être tenter l'effet Bonaldi. Hein. Hop, petit coup de... Déjà il faut le trouver, hop, je tombe sur le site, voilà. Super, le site est en anglais. Bon, download, télécharger, ça la plupart des gens le savent. Et après, poum. Et encore là, ils ont amélioré la page. Je vous cache pas qu'il y a encore quelques temps, il y avait juste les noms des packages. Et donc, si vous saviez pas que si ça se terminait par .exe, c'était pour Windows, si ça se terminait en RPM, c'était pour tel distrib, si ça se terminait en etc., c'était pour tel autre, c'était assez compliqué. Et du coup, je serais même curieux de savoir. Allez, on va cliquer sur Windows, je vais voir où est-ce qu'il m'envoie. Donc super. Donc imaginez quelqu'un qui est vraiment du grand public. On lui a dit que le logiciel libre c'était bien, c'était l'avenir, c'était ce qui allait sauver le monde, etc. Et il doit passer par des sites comme ça. Bon ben ça fait encore un petit peu peur. Donc et encore très sincèrement ils ont amélioré la page. Hein. Il n'y a pas très longtemps c'était vraiment beaucoup plus difficile avec juste les noms de package. Et donc on s'est dit qu'on allait sortir une compilation de logiciels libres pour Windows sur DVD avec une belle interface qui va bien, c'est-à-dire qu'on insère le DVD, on vous présente les différents logiciels, une petite vidéo pour les principaux logiciels, sinon des captures d'écran, on vous dit à quoi sert le logiciel et vous avez un bouton installer, et quand vous cliquez sur installer, ça vous lance l'installateur du logiciel directement depuis le DVD. Vous avez en plus donc ça déjà c'était très pratique et on savait très bien que ça allait marcher, donc on a dû en faire, je sais plus, à peu près 50 000 téléchargements, je crois, du DVD. Et surtout, après, on s'est dit que c'était l'occasion de présenter le mouvement du logiciel libre, et pas seulement de faire un truc de téléchargement, qui évitait le téléchargement. Et donc, on a rajouté une partie culture libre, avec des vidéos comme Big Bug Bunny ou Sintel, donc qui sont des courts-métrages réalisés avec Blender, qui a lui aussi un logiciel libre, et qui sont des courts-métrages libres d'animation. Donc c'est sympa pour les enfants. On a rajouté aussi notre collection Framabook, hein, autant qu'à faire, on est cohérent dans notre démarche d'autopromotion. On a rajouté des livres du domaine public, donc du Shakespeare, des choses comme ça. On a rajouté une centaine de photos libres, etc., etc. Et on a rajouté évidemment une distribution GNU Linux. Donc on avait retenu Ubuntu parce que c'est celle qui est plus adaptée, nous dit-on, auprès du grand public. Je vais pas dire du mal d'Ubuntu ici, de toute façon. Et on a fait en l'année suivante, en 2010, hop, Frama DVD École. donc c'est-à-dire un fork de notre propre DVD réalisé par un directeur d'école qui a sélectionné les contenus à destination des écoles primaires et qui s'est dit bah tiens là on pourrait mettre des ressources par exemple des PDF pour les profs d'éducation physique à l'école primaire et donc il y a des fiches libres sur comment faire une balle aux prisonniers quand on a que 4 gamins, quels sont les modifs qu'on peut faire, etc. Donc des trucs qui sont assez éloignés du logiciel libre, mais puisque c'est sous licence libre, ça permet là encore de créer de la communauté et de la production de ressources dans un cercle relativement vertueux, avec des profs qui nous recontactent en nous disant « Ouais, j'ai lu ça dans votre fiche, mais moi je trouve que je devrais faire comme ça. » Ben, c'est très bien, mettez-vous en contact avec le prof qui l'a écrite, et puis faites une fiche à deux, et puis améliorez-le, etc. Et donc ça s'est développé petit à petit comme ça. Donc là, on va sortir une version mise à jour d'ici quelques semaines de ce DVD. En vente libre, je continue mon catalogue à après vert. Hein. En vente libre, c'est un projet qu'on a sorti fin 2009 avec Ubuntu. Vous remarquerez qu'on est très très amis avec eux du coup. Pour vendre, essentiellement au départ, c'était de se dire bon bah c'est bien beau, les gens peuvent télécharger la clé, mais la télécharger c'est bien, mais il faut la rendre bootable la clé. Et il y a une petite manipulation à faire avec Syslinux. Qui serait à la portée de 80% des gens qui sont dans cette salle, mais qui n'étaient pas à la portée de 3% des gens du grand public, des gens normaux. Et du coup, c'était assez vite compliqué pour eux de se dire bon bah c'est très bien, j'ai téléchargé ma clé, mais comment je fais, etc. Et donc on s'est dit ce serait pas plus mal, un petit peu comme les bouquins, de dire qu'on peut faire de l'objet physique libre et le vendre. Et donc du coup on a fait une boutique en ligne qui au départ ne contenait qu'un produit fin 2009, donc à Noël 2009 il y avait qu'un seul produit dans cette boutique. Alors aujourd'hui, il commence à y en avoir un paquet. Et ça va de la casquette LibreOffice aux affiches April, en passant par des t-shirts Framasoft, des CD Ubuntu évidemment. C'est le best-seller, je ne saurais même pas vous dire combien Ubuntu vend de CD par an, c'est assez affolant. Et donc l'idée c'était de mettre en place cette boutique-là, et elle a pris tellement aujourd'hui d'importance que elle a quitté le giron de Framasoft pour devenir une association à part entière. Donc là aussi on s'est dit qu'au bout d'un moment ça devenait pour nous trop compliqué à gérer, donc nous on est association loi 1901, reconnue d'intérêt général, on n'a pas l'intention de toute façon d'avoir un secteur lucratif, même si là l'objectif est évidemment pas pour cette boutique de gagner de l'argent, c'est de faire gagner de l'argent plutôt aux associations. Mais l'idée c'était pas pour nous de gagner de l'argent, mais c'était trop lourd à gérer, donc on a décidé tout simplement de la sortir et de faire une association à part pour gérer la boutique. Framatube, alors ça c'est un projet dont vous avez probablement pas entendu parler même si vous connaissez Framasoft, c'est tout simplement un site qui héberge au départ. On s'est aperçu que sur le Framablog et dans d'autres sites, on utilisait régulièrement des vidéos issues qui parlaient du logiciel libre et qu'on les perdait parce que on change de serveur, parce qu'on les met dans un coin, parce qu'elles sont mal nommées, parce que etc. Et donc on s'est dit bah ce serait quand même pas plus mal de pouvoir les héberger. Et donc on a utilisé un logiciel libre, évidemment, qui s'appelle MediaCore, qui permet d'héberger des vidéos et de les partager un petit peu. Donc c'est de faire, l'idée c'est de faire un peu le YouTube du libre, avec cette idée de décentraliser un petit peu, de pas tout toujours héberger chez YouTube ou Dailymotion, et d'héberger finalement, j'allais dire, nos propres vidéos. Les vidéos évidemment sont pas réalisées par Framasoft, on les récupère si elles sont sous licence libre, et on peut du coup les rediffuser derrière. Je reviendrai sur l'aspect décentralisation après. Framapack, un projet méconnu, et c'est bien dommage, de Framasoft, sur lequel on a rarement eu le temps pour l'instant de faire de la promo. Là aussi, ça s'adresse grand public Windows. L'idée, c'est de se dire, c'est quand même casse-pied quand on vient d'acheter un ordinateur, ou quand on est justement chez Kevin pour lui installer ses logiciels, d'aller chercher LibreOffice, d'aller chercher PDF Creator, d'aller chercher, J'ai compris et compagnie. Ben là, c'est assez simple, vous faites... voilà, je veux LibreOffice, Gnucache, pof, on va aller chercher une petite rubrique internet, je veux Firefox, Thunderbird, et je vais cliquer ici sur télécharger. Donc là j'ai mon petit panier, je clique sur télécharger, ça télécharge un petit fichier exécutable qui fait 100 kilo octets, donc téléchargé en une demi-seconde. Je double-clique sur ce fichier et il va aller me récupérer les dernières versions de chacun de ces logiciels et me les installer tous à la suite. Donc je peux aller tranquillement boire un café ou une bière, hein, suivant vos préférences. Et du coup, il va installer tous ces logiciels dans la foulée sans vous poser de questions et sans que vous ayez à faire suivant, etc. Donc là aussi, c'est un projet qu'on a diffusé plus de 100 000 logiciels libres avec ce truc-là, alors qu'on n'en a jamais fait la promo. Et en fait, on s'est aperçu que c'était utilisé, le bouche-à-oreille avait très bien dû fonctionner auprès des installateurs de machines, parce qu'on est régulièrement contacté du coup par des gens qui ont des boutiques d'informatique et qui nous disent Framapac, là il y a tel logiciel, c'est pas la toute dernière version qui est téléchargée, faudrait mettre à jour, etc. Donc et on s'aperçoit que ces gens-là utilisent du coup ce petit fichier exécutable quand ils installent leur machine, plutôt que de dupliquer chaque disque, etc., ce qui parfois est compliqué, ils branchent tout simplement la machine à Internet, ils ont l'exécutable sur la clé USB, ils balancent et ça télécharge les 15, 20, 30 logiciels libres d'un coup et qui se retrouvent installés. Donc, projet méconnu, mais bien utile. On tombe sur les tout derniers projets, maintenant on est en 2011. On a lancé deux nouveaux projets en 2011. Le premier s'appelle Framapad. Alors Framapad est basé sur un logiciel libre qui s'appelle Etherpad et qui vise à créer ça vise à aider à la rédaction collaborative de documents. Rédaction collaborative de documents, c'est quoi ? Jusqu'à présent, tout le monde sait à peu près comment fonctionne un wiki. Donc vous savez, qui ne sait pas comment fonctionne un wiki ? J'en ai plus un qui lève la main derrière. C'est pas drôle, reste caché. Le principe du wiki, c'est simple, c'est je clique sur modifier, j'écris, je sauvegarde, etc. Et puis l'autre personne, elle va pouvoir modifier. Donc sur Wikipédia, par exemple, on va remodifier l'article derrière. Qu'est-ce qui se passe quand il y a deux personnes qui écrivent en même temps dans le même texte ? C'est casse-pied parce que ça dit « Ah, quelqu'un est en train de faire des modifications, attention, donc on est obligé d'attendre, etc. » Le principe du pad est très très simple, c'est je vais par exemple créer un pad. Hop, et ici je vais pouvoir écrire, et là si jamais il y avait une autre personne qui était connectée en même temps, on aurait son nom inscrit ici, et lorsque la personne taperait, ça écrirait son texte en temps réel, d'une autre couleur. Donc on peut travailler à 2, à 3, à 4, à 10, sur un même document, en même temps. Donc nous c'est très utilisé, notamment pour faire nos traductions, aujourd'hui, c'est très utilisé. Alors, on a aujourd'hui donc la possibilité, là c'est le compte public. Sur le compte public, on a eu près de je crois à peu près 8 ou 9 000 pads qui ont été créés en moins d'un an. On a lancé le projet en mars, je crois, au mois de novembre. En moins d'un an, donc il y a eu une dizaine de milliers de pads qui ont été créés et il y a possibilité d'ouvrir des comptes professionnels. Professionnel, je comprends. Professionnel, ça veut pas dire que c'est payant. Professionnel, ça veut dire que il y a un espace réservé, sécurisé pour la personne. Créer un compte Framapad. Et donc, ça va vous faire une adresse, par exemple, je sais pas, kevin.framapad.org. Désolé, j'espère qu'il n'y a pas de Kevin dans la salle. C'était pas... avec kevin.framapad.org, du coup, tous mes pads vont rester en permanence, derrière, je vais pouvoir y accéder quand je veux, les modifier quand je veux, et surtout pouvoir les rendre accessibles par mot de passe ou pas, et dire qui a accès ou pas. Donc c'est un projet qui est quand même très très utilisé, qu'on a lancé pour voir si ça allait marcher. Et ceux qui suivent l'actualité de Framasoft, il y a peu de temps, il y a un mois à peu près, on a lancé un petit appel à l'aide parce qu'on avait loué une machine, du coup, une petite machine pour héberger Framapad. On s'est retrouvé complètement saturé parce que la machine ne suivait plus tellement il y avait de demandes. On a des pics d'utilisation, des fois avec 300, 400 utilisateurs simultanés qui sont en train de rédiger des textes en même temps sur Framapad et la machine tenait pas la route. Et du coup, on a lancé un petit appel à l'aide et il y a une société de services en logiciel libre qui nous a dit, ok, pas de problème, on va vous héberger gratuitement et sur une machine plus costaud. Donc on va migrer bientôt les pads chez eux. Voilà ce que je pouvais dire à peu près sur Framapad. On reviendra peut-être dessus dans les questions. Framadat. Alors Framadat, le principe, là aussi, c'était de reprendre un service qui existait déjà ailleurs et qui était très utilisé mais qui était pas libre, qui s'appelle Doodle. Je sais pas si vous voyez ce à quoi correspond Doodle, je vois plein de oui dans la tête, dans la salle. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de dire je veux programmer un rendez-vous à plusieurs et on sait pas à quelle date convient à tout le monde. Donc je vais le faire en live, un petit Framadat, je vais mettre un an de sondage. Ici. Et une adresse email. Voilà, je choisis les dates de disponibles sur lesquelles peuvent avoir lieu par exemple l'événement. Je peux éventuellement donner des heures, là je vais pas le faire. Hop, mon sondage est créé. Et donc voilà, là je vais dire que par exemple, moi je suis disponible. On va marquer Pierre-Yves disponible le jeudi, le vendredi. Et puis, on diffuse tout simplement cette adresse-là. Donc là, normalement, vous n'avez pas vu, mais on reçoit un email avec l'adresse, une adresse d'administration aussi d'ailleurs. Et puis, on va pouvoir dire, bah voilà, va donc à cette adresse-là et rentre ton sondage. Et donc, la deuxième personne peut rentrer et dire, bah non, moi je suis disponible telle date, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on va voir quel est le jour qui convient le mieux. Donc ça marche pour les sondages par date, et ça marche voilà, si jamais vous voulez faire une pizza party, est-ce que vous préférez quatre fromages, anchois, pas anchois, etc. Ça marche aussi pour ça. Et là aussi, on est à peu près, donc le projet a été lancé de façon assez silencieuse, on va dire, au mois de juin, je crois. Et là, on est à plus de 1000 ou 1500 sondages créés. La différence avec Doodle, c'est que pour l'instant, c'est moins bien que Doodle. Pas de honte à le dire, d'un point de vue ergonomie, etc., on propose évidemment pas autant de fonctionnalités. Par contre, c'est libre. C'est-à-dire que le code source de Framadate est disponible librement et gratuitement sur GitHub. Il est issu d'un projet qui s'appelle Studs, qui est développé par l'Université de Strasbourg, mais sur lequel on est en train finalement de réécrire l'ensemble du code. Mais surtout, vos données sont pas hébergées par une société commerciale. Donc, pas de pub. Pas de réexploitation de vos données, pas de réexploitation de vos emails. Nous, on conserve pas les données, c'est-à-dire que à expiration plus N jours du sondage, c'est supprimé, on veut pas s'en occuper, on veut pas avoir à savoir à faire ce que vous faites avec comme sondage. Voilà, donc ça fait partie d'un projet, j'y viens, plus large, qui va venir du coup dans les prochaines années. Que on a assez pompeusement pour l'instant nommé Framacloud, on ne sait pas trop si on va garder ce nom-là ou pas, mais c'est de sensibiliser. Je vais revérifier l'heure. Il me reste une petite vingtaine de minutes, donc si je veux garder 10 minutes pour les questions, il faut que je speed un peu. L'idée, c'est de se dire bon ben voilà, on a plein de projets. Qu'est-ce qu'on fait dans les années qui viennent? On s'est dit que le logiciel libre, ce qu'on voyait comme modification de ces dernières années, c'était que de moins en moins de gens installaient des clients, des logiciels libres sur leur machine et utilisaient de plus en plus des logiciels en ligne. Notamment ceux de Google, notamment les réseaux sociaux, type Facebook, Google+, etc. Et il faut, nous, dans notre mission de promotion du logiciel libre auprès du grand public, il faut qu'on sensibilise ces gens à qu'est-ce que ça implique pour eux en termes de respect de la vie privée. Lorsqu'on met ses données sur Facebook ou sur Doodle, comment est-ce que je suis sûr que mes données vont pas être distribuées? En termes de pérennité des informations, en termes de voilà, de sécurité tout simplement, est-ce que quelqu'un peut pirater Doodle? Oui, bien sûr, etc. Et donc on va essayer de pousser de plus en plus de gens à utiliser des services décentralisés, paradoxalement en leur montrant que nous, on arrive à les centraliser. Donc, par exemple, on a Framapad et Framadate. Mais vous pouvez parfaitement installer Framadate et Framapad sur une machine chez vous, ou dans votre entreprise, ou ailleurs. Et du coup, disposer de votre propre espace. Et donc, ces projets-là qu'on a commencé à mettre en place, et bien, il y en avoir d'autres, vont être destinés petit à petit à sensibiliser les gens à installer leurs propres applications chez eux. Et on a fait un peu comme on se moque un petit peu de Framasoft en disant qu'on est des Windowsiens, ce qui n'est pas totalement faux. On n'en a pas spécialement honte. On n'a pas spécialement honte de dire aux gens, regardez, finalement, utilisez Framadate ou Framapad qui sont des services en ligne, centralisés par Framasoft, libres, mais centralisés par Framasoft, et regardez comment ça marche, et si ça marche bien et si vous en êtes satisfait, pensez, pourquoi pas, à l'utiliser, à l'installer chez vous. Et on proposera des procédures simples d'installation de ces logiciels chez vous, dans votre propre machine. Framaphonie, c'est un projet de diffusion du libre dans les zones faiblement connectées, on pense notamment à l'Afrique. Donc là, l'idée, c'est de se dire, nous, on a plein de goodies, Ubuntu a plein de goodies, on peut croiser Fedora, qui peut avoir aussi quelques CD à diffuser, etc. Les gens en Afrique n'ont pas encore une bonne connexion, donc il y a des grosses lignes qui en gigabit qui commencent à s'installer en Afrique, mais enfin, c'est pas encore ça, à part dans les universités. Donc si vous êtes au fin fond du Mali, que vous voulez télécharger Ubuntu, bon courage. Par contre, nous, on a des CD Ubuntu, on a des livres, etc. Et on peut les envoyer assez facilement, du coup, en Afrique. Donc c'est un projet qu'on va lancer, qui aurait dû être lancé avant les vacances, mais on est un peu surchargé, donc on n'a pas trop eu le temps, mais on devrait le lancer, on va dire, d'ici la fin de l'année. Je passe sur d'autres projets qui pourraient venir, parce qu'ils sont encore complètement dans les cartons. Il faut qu'on refonde notre annuaire. Alors, refondre l'annuaire de Framasoft, ça fait 4 ans qu'on en parle, c'est très compliqué, il est sous SPIP actuellement. On voudrait le passer donc probablement en Drupal, mais ça nous demande du coup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et pour l'instant on n'est pas bien bon parce que on a plein d'autres choses à faire, on a complètement le nez dans le guidon, et c'est assez compliqué. Mais on voudrait le refondre, et pour s'occuper notamment de ces nouveaux supports, donc non seulement le cloud, mais aussi les tablettes et les smartphones, vu que de plus en plus de logiciels aujourd'hui sont utilisés à travers ces médias-là, enfin ces supports-là. Et il faut que le logiciel libre, qu'on arrive à montrer que le logiciel libre est présent là-dessus. Les développeurs savent faire des applications, des développeurs libres savent faire des applications libres pour les tablettes et pour les smartphones. Le problème, c'est qu'on les connaît pas forcément. Et la mission de Framasoft, c'est de les mettre en avant. Et de montrer à tous les Kevin que ça fonctionne et que ça peut s'installer et que ça peut très bien fonctionner. Autre mission qu'on se fixe, c'est donc de réussir à passer du logiciel libre à la culture libre. Non pas qu'on n'aime pas le logiciel, mais comme je l'ai expliqué au départ, on n'est pas informaticien. Moi, j'ai une formation d'économiste à la base. Le président de Framasoft est donc prof de maths. On a dans l'association des chômeurs un prof de ski. C'est assez des restaurateurs. C'est assez hétéroclite. On a finalement assez peu d'informaticiens. Et ce qui nous intéresse finalement dans ce mouvement du logiciel libre, et ce qui nous avait plu au début, c'était cette espèce d'utopie, quelque chose d'assez révolutionnaire, qui était de dire qu'on pouvait partager et faire des choses bien en partageant du savoir et de la connaissance au sein du logiciel. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est que quelque chose, des projets comme Wikipédia par exemple, arrivent à le porter sur d'autres domaines, donc l'encyclopédie, mais ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur l'écologie, sur le développement durable, etc. Et on aimerait réussir à montrer que ce qui marche dans le logiciel libre peut marcher dans ces autres domaines aussi. Accompagner la révolution, c'est notre petit côté utopiste, hein, mais on le défend quand même avec notre petite casquette de militant, à dire que cette révolution du libre, elle est une opportunité pour notre génération de contrer finalement le domaine du tout privé. Alors là, je vous fais pas le discours Steve Jobs est mort, désolé, mais sur l'iPhone, sur iTunes, comment est-ce qu'on peut mettre des barrières sur chaque truc, et comment est-ce que demain, si on les laisse faire, à chaque fois que vous allez télécharger un livre, ça va être prélevé sur votre facture de téléphone. À chaque fois que vous allez cliquer sur un bouton de votre iPhone, ça sera un clic pour Apple. Comment, etc. Donc, cette société à péage complète et permanente, sur laquelle vous n'aurez pas le droit de réutiliser évidemment des contenus, des images et autres, automatiquement votre tablette tactile détectera si vous avez intégré dans votre présentation pour votre thèse une image qui est pas libre et qui fera non interdiction de réutiliser telle image, etc. Donc si on veut éviter ça, il faut qu'on arrive quand même à montrer au grand public que le libre porte des valeurs qui sont cohérentes, et on va essayer d'accompagner ça. Je vais pas parler de l'association, du coup, je vais juste dire quand même, donc, ce qu'on fait, on n'y voit rien, je suis désolé, comme j'ai expliqué en tout début, c'est que le site n'est pas fini, et du coup, il manque encore des fonds d'écran qui vont bien, ça, parce qu'on a un projet Framacake de gâteau, je déconne pas. Notre mission en dehors de tout ça, c'est d'administrer donc les serveurs qui vont derrière en tant qu'association. Donc il y a une quinzaine de sites que je viens de vous présenter, mais une trentaine d'applications, on n'y voit vraiment rien. Trentaine d'applications parce qu'on héberge aussi des sites amis, comme les associations Veni Vidi Libri, comme le Simon Giraudot qui fait les BD Geeksionnaires, etc. Donc on propose de l'hébergement tout simplement à des gens qui font du libre. qui le font bien. 150, voilà, 30 millions de visites par an, 150 millions de pages vues, et sur 2010, 169 teraoctets de données transférées pour une quinzaine de sites web, ça commence à faire pas mal. Un permanent, c'est moi. Et une crise de croissance parce que être tout seul, ça commence à être lourd. Être tout seul, évidemment, donc il y a une grosse communauté autour. Donc l'association représente en gros une vingtaine de personnes avec un salarié. Et après, on a un deuxième cercle. Donc notamment, si on prend Framaland dont je vous ai parlé, etc., on arrive assez facilement à 200-300 personnes. Et puis on a une communauté beaucoup plus large, donc notamment des donateurs qui représentent à peu près 2000-3000 personnes. Mais pour gérer tout ça, c'est compliqué. Donc, on est en crise de croissance et on aimerait bien avoir un deuxième salarié. On a essayé l'an passé, on n'y est pas arrivé. On y est arrivé pendant un temps, mais ça peut pas trop fonctionner, y compris au niveau financier et surtout au niveau financier. Donc, on a une crise de croissance. Donc, on a besoin d'aide. Donc, soutenir Framasoft. Vous pouvez participer à un projet. Vous pouvez en créer un. Encore une fois, moi, je vous invite à nous contacter en nous disant voilà, moi, j'ai une idée. Alors, pas forcément. Si votre idée c'est de développer un logiciel, vous n'avez pas besoin de nous. Si votre idée c'est de développer un site ou un service ou quelque chose qui va permettre de promouvoir le livre, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être qu'on pourra mettre à disposition des ressources. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, qui parfois sont privés, et parfois pas, donc Identica ou autre. Et vous pouvez aussi donner des sous pour la recherche, s'il vous plaît. Il y a un site qui s'appelle soutenir.framasoft.org que vous allez retrouver sur la plupart. Si vous allez sur à peu près n'importe quel site Framasoft, vous avez cette petite barre là, et hop, vous allez retrouver ici soutenir Framasoft, qui permet de faire un don de par exemple 10 euros par mois. On a 400 personnes qui nous donnent 10 euros par mois aujourd'hui, ou même de 5 euros une seule fois, etc. N'hésitez pas à nous soutenir par rapport à l'ensemble de ces projets. Voilà. Donc l'idée de cette présentation, c'était malgré tout pas de faire de l'autopromo, c'était de montrer qu'on peut créer des projets de diffusion et de promotion du libre auprès du grand public. On pense que, assez modestement, on y arrive depuis 10 ans, mais on le fait pas suffisamment bien, et surtout, on voudrait vous inviter à participer avec nous à ça, à promouvoir non seulement le logiciel libre, les distributions libres comme Ubuntu, qui nous accueille aujourd'hui, mais aussi parler de culture libre et autres pour les années à venir. Il doit me rester 5-10 minutes. 10 minutes de questions. Pas mal. Parce que là, ça ressemblait un peu à un monologue rapide, mais... Tout ça ? Ouais, une question. Vas-y, je répète. Ah, s'il y a quelqu'un qui se déplace avec le micro, sinon je répéterai la question.
Au niveau de Framapack, je voulais juste savoir si, quand on installait, on téléchargeait les logiciels, vous disiez qu'ils étaient installés automatiquement. Est-ce que c'est possible, malgré tout, de choisir ce qu'on en fait une fois qu'ils sont sur ordinateur avant de les installer ?
Ce qu'on en fait sur l'ordinateur, je comprends.
C'est-à-dire choisir le répertoire dans lequel ils vont être installés, etc.
Alors non, par défaut, c'est des installations silencieuses. Par contre, c'est possible, en fait, parce qu'on a eu la demande justement de la part de personnes qui travaillent dans des boutiques d'informatique et qui installent et qui montent des machines. C'est possible de créer en fait un dépôt local. Et je pense que dans ce dépôt local, tu dois pouvoir passer le paramètre comme quoi tu veux non pas une installation silencieuse, mais une installation classique. Et donc en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner tes logiciels, ils vont être téléchargés dans le dépôt local, qui est un dossier, et après, ben, une fois que les logiciels sont dans le dossier, c'est les installateurs standards, et tu vas sélectionner ceux que tu veux. Voilà. Ça peut fonctionner comme ça. Mais à la base, c'est vraiment fait, encore une fois, là aussi, hein, on peut rajouter, le développement est libre, hein, Framapack est hébergé sur SourceForge, participer, développer, proposez-nous des améliorations, et ce sera avec joie que... suivant le temps disponible, hein. ça va être un peu ça, mais suivant le temps disponible, ce sera avec plaisir qu'on essaiera d'apporter ces améliorations au logiciel. Oui, pas de problème.
On le veuille ou non, j'ai l'impression que l'informatique va se diriger donc de plus en plus vers le cloud computing, du moins pour le grand public. Et est-ce que vous souhaitez développer justement un maximum de services, que ce soit des mails ou des réseaux sociaux pour voilà offrir quelque chose contrer cette approche privée du cloud computing.
Alors, ce qu'on veut, on veut en fait le fait de mettre en place des services, c'est une conséquence, c'est un effet marginal. Ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent ce qui se passe quand ils vont sur Gmail ou ce qui se passe quand ils vont sur Facebook, parce que tu prenais le cas du mail et des réseaux sociaux. Framasoft n'aura jamais, probablement, enfin, on n'a pas l'intention de devenir l'international mondial du logiciel libre. Par exemple, les mails, allez, je le dis, les mails de Framasoft sont honteusement gérés chez Gmail, pour la plupart des membres. Bouh, c'est mal. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient conscients des choix que ça implique et qu'ils aient la liberté de faire autrement. Pour le cas des mails, par exemple, pourquoi est-ce qu'on utilise Gmail? C'est pas tant que c'est joli, etc. C'est qu'on a longtemps utilisé nos propres serveurs de mails et que à migrer un serveur de mail, c'est la merde. Là, je vois des gens qui font « Ouais, gérer des mailing lists et migrer des mailing lists, c'est la merde. » Donc, du coup, on a délégué ça à des gens qui savent faire. On pourrait très bien passer plutôt par d'autres services, y compris des services libres. Nous, ce qui nous paraît important, c'est que les gens comprennent. Une fois qu'ils ont compris, ils feront leur propre choix. C'est-à-dire que nous, on a choisi, là, pour le mail, d'utiliser de passer par Gmail. Pour les réseaux sociaux, on n'a aucun souci. Effectivement, on a une page Facebook, mais par contre, on a aussi une page chez Diaspora. On utilise plus Identica finalement que Twitter. Enfin, Twitter est utilisé aussi parce que c'est répercuté d'Identica vers Twitter, mais on poste sur Identica, qui est donc un équivalent libre de Twitter. On n'a pas vocation, par contre, à installer des services lourds, voire très lourd. Ce qu'on veut, c'est plutôt montrer des petits services comme Framadat ou Framapad. Il y a un Framatalk qui est en prévision aussi, basé sur Mumble, qui est un logiciel à base plutôt d'une copie de TeamSpeak pour le jeu vidéo, donc qui permet à plusieurs personnes de parler. Parce qu'il y a déjà des associations type Jabber.fr qui existent, on va pas les remplacer. Hein. C'est juste de dire, regardez, voilà, si vous avez ce petit logiciel-là, vous pouvez vous faire une conférence à 350 personnes si ça vous amuse. Et pour nous, ça nous coûte rien parce que voilà, c'est hébergé sur un bout de serveur et que ça consomme quasiment rien en bande passante. Et voilà. Donc, on va proposer des applications. Alors, j'aime pas trop qu'on utilise le mot cloud parce que pour moi, le cloud en tant que informaticien formé sur le tard, c'était aussi et surtout la possibilité de partager les ressources machines entre plusieurs machines pour pouvoir accuser les montées en charge sauvages qu'on peut avoir de temps en temps. Or là, il s'agit plutôt d'utiliser juste des applications en ligne. Donc on fera probablement l'hébergement d'applications en ligne quand des services... on est en train de regarder, par exemple... Ce qui nous intéresserait, par exemple, c'est que les associations de France et de Navarre utilisent des applications libres pour communiquer entre elles plutôt que Gmail. Mais pourquoi est-ce qu'elles utilisent Gmail? Parce qu'elles connaissent pas forcément le reste et parce que installer le reste aujourd'hui leur paraît compliqué. Si on arrive... nous, avec votre aide, à leur expliquer que installer un Etherpad ou que installer un Sympa ou que installer un TeamLab ou des logiciels de création de partage de documents, de collaboration en ligne peut être faisable et a un intérêt pour eux, ce serait une bonne chose. Et je pense notamment là aux associations syndicales qui nous contactent pour Etherpad. Je sais pas, il y a quelqu'un dans un syndicat qui un jour a dû se réveiller à dire « Ah, c'est vachement bien, Framapad ». Il a dû envoyer ça à toute sa délégation interrégionale, je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai reçu 4 ou 5 mails de délégués syndicaux là en quelques jours pour me dire « Ouais, alors voilà, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça ». Donc, les délégués syndicaux, ils ont bien compris qu'ils avaient un intérêt à être plutôt hébergés par une asso ou plutôt chez eux, plutôt que par... le grand capital, et du coup forcément ça soulève des questions, et notre mission c'est pas de proposer ces services là et surtout pas de les proposer pour 10 ans, c'est de réussir à sensibiliser les gens. On le fait d'une façon assez perverse en leur proposant en ligne, alors plutôt que de leur dire télécharger et installer c'est bien, on leur fait essayer, et le jour où vous avez un problème, vous cliquez sur le bouton et vous l'installez. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Vas-y, il y aura le temps pour... Non, vas-y, t'as le micro à la main.
Oui, malgré tout, ça, j'ai l'impression que ça peut aller pour une... pour des associations, pour des... pour des syndicats qui sont déjà sensibilisés à ces questions, mais pour la majorité du grand public, si la solution proposée par le grand capital est plus simple, mine de rien, à mon avis, de toute façon, les gens vont aller vers ça.
Ceux qui sont vendus au grand capital, ils seront vendus au grand capital. Non, mon propos, il est de dire que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, tu finiras, toi, en tant que citoyen, par être touché par ces questions. Tu auras deux façons de faire. Tu pourras masquer les yeux et avancer et regarder par terre en disant non, je serai pas embêté, on viendra jamais me chercher, on viendra jamais regarder dans mes fichiers, on viendra jamais fouiller mon ordinateur. C'est une solution. L'autre solution, c'est de te dire bon bah ça peut peut-être arriver et à ce moment-là, tu auras peut-être le réflexe de te dire tiens, je me souviens d'avoir lu ça dans un magazine un jour. Enfin moi j'étais mort de rire. On a eu des articles sur Framasoft dans Femme Actuelle quoi. Je veux dire, tant mieux. C'est exactement ça l'objectif. Et peut-être qu'ils rouvriront le vieux Femme Actuelle en se disant, tiens, oui, il parlait d'un truc là qui s'appelait le Frama DVD, machin, ça peut être bien. Et après tout, ça va être ça l'objectif. C'est-à-dire que le Pékin moyen, il finira peut-être par être syndiqué ou par bosser dans une asso. Enfin, je sais plus quel est le taux de enfin, il y a 30%, 40% des Français qui sont membres d'une association, quelle qu'elle soit. Et donc sur ces donc c'est à peu près la moitié de la population française. Dans la population active, c'est encore bien plus important. Si ces gens-là, à un moment donné ou à un autre, ils se retrouvent dans une assemblée générale de leur association qui fait du macramé les boulistes de voilà du 9e arrondissement lyonnais, j'en sais strictement rien, ils viendront et ils diront ouais mais quand même là notre truc c'est quand même pas bon d'utiliser que les services payants ou américains. Ah, on fait signe que c'est fini. Et donc du coup, peut-être qu'ils auront cette idée-là de venir utiliser d'autres types de services. Et on a vraiment une carte à jouer pour que ça soit des services libres. Voilà. On fait signe que c'est fini. Donc j'allais dire je prends la dernière question, mais non, même pas. Si vous avez des questions, donc on est sur la banque qui accueille les associations, donc les deux, il y a deux petites banques, deux petits stands associatifs. Il faut ressortir de la médiathèque là ici, et on est juste à l'extérieur. Vous avez Wikimedia, Mozilla, Framasoft, l'April et la Quadrature du Net, et on discutera de tout ça avec vous, avec plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. On prend les chèques, les virements. Merci.